qui fut d'abord pendant longtemps, je dirais, un des piliers de la collection Anticipation du Fleuve Noir, et qui, disons, continue, je dirais, ses travaux d'écriture et nous permet encore de nombreuses évasions chez d'autres éditeurs.
Bonjour, bonjour tout le monde. Pour moi, ça a été dit, pour moi, le space opéra, c'est de l'aventure. Les auteurs de space opéra sont d'avant tout des conteurs au sens ancien du terme. On est les premiers auteurs, les premiers auditeurs de notre conte. C'est ce qu'il y a de bien dans ce métier-là. Quelquefois, vous travaillez tard le soir, il est 2h30, 2h du matin, 3h du matin, il faut quand même que j'aille dormir. Et ça vous embête parce que vous êtes en train de travailler, et puis bon, vous finissez par arrêter l'ordinateur, et en allant vous coucher, vous dites, merde, je savais être demain pour faire la suite. Parce que c'est vrai, c'est pas une blague qu'on se raconte l'histoire nous-mêmes, et on connaît pas la suite. On va se coucher, on la connaît pas, et on a envie d'être au lendemain pour la connaître, parce que le lendemain, on connaîtra, effectivement. C'est vraiment la même attitude qu'a le lecteur en lisant un bouquin qui lui plaît. C'est pas forcément le cas pour. À chaque fois, même pour nous d'ailleurs, quelquefois on fait un bouquin, mais on n'est pas enthousiaste pour faire la portée de risque la suite. Parce que là, il vaut mieux pas le remettre à l'éditeur d'ailleurs. Pour le reste, je suis venu, pour parler un petit peu de moi, même si ça me dérange un peu. Je préfère que ce soit les autres qui parlent de moi. Hein. Je suis venu à l'écriture parce que j'étais journaliste après l'Algérie, je suis devenu journaliste. Et au bout d'un certain temps, une dizaine d'années de métier, mon épouse m'a dit qu'on ne gagnait pas assez d'argent. Il faut trouver une autre source d'argent. Je l'ai pris dans la gueule, mais je me suis dit, elle a raison. Hein. Mais qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais rien faire d'autre qu'écrire. Alors je lisais les bouquins d'espionnage au Fleuve Noir. Bon, pourquoi pas essayer? Et j'ai essayé. À cette époque-là, au Fleuve Noir, il fallait avoir deux bouquins acceptés avant que le premier ne soit paru, ne soit publié. Je voulais être certain qu'on ne partait pas pour faire un coup simplement. Donc, j'ai fait les bouquins, et les deux premiers ont été acceptés, j'ai eu cette chance. Et puis, je travaillais sur le troisième. Non, j'ai fait le troisième, qui a été publié aussi. Mais je travaillais sur le quatrième. J'imaginais que c'était l'histoire de Palestiniens qui prenaient le pouvoir dans un pays proche d'Israël pour avoir un pays qui servait de base de secours. Et j'avais imaginé la Jordanie. Et puis, c'était en mai 68, enfin, c'était le printemps 68. Voilà, quand je quittais les barricades où je faisais le reportage, je rentrais chez moi, puis si je pouvais encore espérer, je travaillais un petit peu, j'ai terminé un bouquin en juillet. J'ai donc donné le manuscrit au Fleuve Noir. Et puis c'est donc l'histoire de Palestiniens qui prenaient le pouvoir en Jordanie. Manque de bol, ils ont eu cette idée aussi. Alors effectivement, en août, il y a eu une révolution en Jordanie que le roi Hussein a réprimée. Mon petit camarade arrive, un moment de silence, pour arriver, mon petit camarade.
Merci.
Je te laisse pas le présenter.
Oui, alors donc Pierre Bordage, que vous connaissez peut-être, qui a commencé, je dirais, dans la littérature, enfin, de manière peut-être un peu plus officielle et plus large, avec Les Guerriers du Silence, qui est un grand space opéra, qui depuis en a écrit un certain nombre d'autres. Donc, Pierre, je te laisse te présenter peut-être.
D'abord, je suis tout à fait désolé pour le retard, et un petit peu indépendant de ma volonté, parce que quand je suis présenté à 16h15 tout à l'heure à l'entrée, on m'a dit que c'était reporté à 17h le départ. Donc, je suis reparti, et mon camarade Mézé aussi, il est reparti. Donc, il sera certainement à 5h. Donc, voilà, désolé de me présenter. Je suis auteur depuis 1993, effectivement avec pas mal de science-fiction et de science-opéra dans ma production, avec aussi des passages en anticipation et des passages en fantaisie historique et aussi dans les chroniques. Mais la majeure partie de mon travail, c'est du space-opéra, parce que j'adore ça tout simplement.
Alors, oui, bien, puisque on faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Moi, la première question que je poserai, est-ce que le space opéra, d'abord, c'est de la science-fiction?
Ah. À toi. je suis sec.
Merci de m'appeler le bébé. Pour moi, non. Ce sont des univers de science-fiction qui, je pense, c'est ça. Désolé pour les gens qui étaient là hier au débat sur Star Wars, on va certainement avoir des répétitions. Parce que Star Wars étant le prototype du space opéra en cinéma, pour moi, je reprendrai la définition de Pratchett, le space opéra, c'est de la fantaisie avec des boulons. En gros, ça reprend beaucoup les archétypes mythologiques dont se nourrissent aussi les productions de fantasy. Et j'ai l'impression de plus dans des univers de fantasy, ou alors on appelle ça de la science fantasy, je crois qu'il y a une sorte de mot bâtard pour décrire ce genre de choses. Souvent, mes références, c'est évidemment Dune, principalement Dune, qui m'a donné envie de venir dans l'espèce opéra, Star Wars sur le plan cinéma, et ces deux ouvrages sont, à mon avis, des univers de fantasy avec un habillage de science-fiction. Dans Dune, la quête messianique, ou la quête... la quête initiative du héros, Paul Atreides, me semble tout à fait ressortir des univers de fantasy et des univers mythologiques avec ses quêtes initiatiques de la plupart des héros. Héros jeunes, hein, souvent, comme Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles ou donc Paul dans Dune. Et toute cette quête initiatique qui, avec des organisations très proches du médiéval, finalement, parce que vous avez un empereur, des ducs, des barons, etc. Donc on est, à mon avis, dans des univers de fantasy, mais qui utilisent des ressorts science-fictifs pour expliquer, pour illustrer le fait que l'humanité ne joue plus sur un terrain de jeu qui est la Méditerranée ou un territoire, mais dans l'espace. Donc il faut créer aussi les moyens de transport spatiaux, ce qui est l'élément science-fictif souvent, mais les organisations et les quêtes héroïques, à mon avis, ressortent plus des univers de fantasy.
Excusez-moi.
Alors, moi, j'ai obéi aux ordres, on dit rentrer dans une demi-heure, dans une heure, et ben, je reviens dans une heure.
Alors, Jean-Claude Bézière, bien connu, notamment par son univers de Valérien, ben, je te laisse te présenter un petit peu plus.
Bonsoir, c'est moi. Ordre et contre-ordre, c'est comme à l'armée ici. Hein. Qu'est-ce que je dois dire?
Tu expliques un petit peu. Enfin, voilà, chacun se présente, donc il y a peut-être qui ne te connaissent pas dans la salle.
D'accord. Ok, bon. Je suis Jean-Claude Mézières, dessinateur de la série de bande dessinée Valérian, que nous avons créée, Pierre Christin, scénariste, et moi, ensemble, il y a 45 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je crois, 67. Je ne sais pas, faites pas les comptes, je sais pas combien j'étais. Et donc, simplement. Qui était en fait le désir à l'époque de publier pour le journal Pilote à raison de 2 pages par semaine, puisque ce n'était pas du tout les albums, ça n'existait pas, il n'y en avait que ceux de Tintin prestigieux, mais tous les dessinateurs débutants faisaient des histoires dans le journal. Et nous avions le désir de faire quelque chose qui ne soit pas une bande dessinée, ce que les autres faisaient, le western, il y avait Blueberry, Lucky Luke, Jerry Springer, Red Rider, etc., etc. Il n'y avait que des très très belles bandes western. J'avais beaucoup voyagé aux États-Unis. J'adore l'Ouest américain. Mais là, je ne voulais pas refaire ça en dessous du niveau de mes camarades. Et par contre, la science-fiction, qui était une lecture que nous avions eue dès les années 50, en tant que gamin, disons, les plus grands classiques. À l'époque, je crois que c'était les classiques encore, mais on lisait des bouquins de Asimov, je dis les noms, probablement la chronologie n'est pas bonne, mais en tout cas, moi, je garde des grands souvenirs de tout ce qui était des lectures qui m'a ébloui et dont je... Parce que je trouvais que mon dessin était très mauvais, je ne rêvais même pas à les faire, ça, tout de suite. Ce n'est qu'au fur et à mesure, lorsque Pierre Christin m'a poussé à redémarrer la bande dessinée que j'avais abandonnée pendant quasiment 10 ans, à cause que j'étais copain d'école d'un certain Jean Giraud-Meubius depuis l'âge de 15 ans. Et j'aimerais vous dire que quand on est copain de classe avec Wolfgang Amadeus Meubius, c'est dur pour l'ego personnel. Donc j'avais quasiment abandonné la bande dessinée. Je faisais de l'illustration, de la publicité, etc. Et c'est aux États-Unis où j'ai retrouvé Christin, qui lui était prof d'université en littérature française. Et j'ai cohabité chez lui parce qu'il y avait un mètre de neige dehors. Et moi, j'étais cow-boy à mi-temps, et c'était quand même pas facile de dormir dans les fossés quand il y a un mètre de neige. Donc, je cherchais des petits boulots d'illustrateur, et Pierre me dit, mais pourquoi tu redémarres pas la bande dessinée? Et c'est vraiment sous sa pression, peut-être parce qu'il en avait marre de me voir coucher sur son canapé, quoi. Et en fait, j'avais besoin de payer mon billet de retour pour la France, et j'avais pas d'argent, puisque j'étais sur un visa de stagiaire industriel où je n'ai jamais été travaillé, et donc j'ai envoyé une première histoire qu'on a fait pour 6 pages dans Pilote, et qui ont été publiées grâce à Géraud qui les a montrées à Goscinny, et l'engrenage a repris, et en arrivant en France, après quelques essais avec différentes personnes, je voyais bien que ce que j'avais envie de travailler, c'était un domaine où je pouvais communiquer beaucoup avec mon scénariste, c'est-à-dire Pierre Christin, qui lui était prof d'université, et simplement, on a décidé de lancer une histoire de science-fiction avec les problèmes que ça réalisait, la première page de Les Mauvais Rêves, dessinée Galaxy City, capitale de l'Empire terrien, 25e siècle, ou 23e, je ne sais plus. Comment je peux dessiner ça? Et avec un dessin malhabile, j'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Et on a fait une histoire qui fait un saut spatio-temporel au Moyen-Âge, où il va faire une histoire très classique, mais repartir après dans le futur. Et ce genre de récit, mal fichu, mal dessiné, mais avec des idées quand même de présenter des images que les petits lecteurs n'avaient jamais vues, et en plus, une héroïne femme qui était très belle. Ben, j'ai essayé de la dessiner très belle, mais je n'étais pas convaincant. Mais quand même, les lecteurs y ont cru. Et il y avait une histoire avec une nana qui avait du talent, de l'intelligence, et ma petite tête très bien faite et peut-être les fraises aussi. Donc, ça a été un petit succès de bouche à oreille. Continuez, ah, c'est marrant vos trucs. Et la machine s'est lancée. Et on a 45 ans plus tard, on continue toujours. Voilà.
Un détail tout bête que tu ne connais peut-être pas. Il y a aujourd'hui un antidépresseur qui porte le nom de ta série.
C'est pas vrai. Ouais. Quoi, Valérian? Ouais. Ah oui, mais Valérian, ça je sais que c'est une herbe valériane. C'est un antidépresseur, c'est une herbe.
Non, non, la valériane, tout le monde connaît. Mais un véritable antidépresseur.
Un vrai antidépresseur.
Les scientifiques ont du nom. Hein.
Bah écoutez, je suis ravi, j'espère que je vais toucher des cachets, c'est le cas de...
Ouais. Il marche bien.
Moi, mais il y a même un vin de Bordeaux, c'est Château Grand-Mézières. Alors ça aussi, on m'en a offert une bouteille, je ne l'ai pas encore bu parce que...
Alors, j'allais poser la question à Pierre. Pour toi, est-ce que le space opéra, c'est de la science-fiction? Pierre nous disait tout à l'heure que pour lui, c'était plus de la fantaisie, habillée donc avec de l'or, avec la technique. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est un vaste sujet, je crois qu'on avait tenté de l'aborder hier. Oui. J'ai absolument aucune opinion, je ne sais pas ce qu'est la science-fiction. Je sais que l'héroïque fantasy, c'est quelque chose dans lequel je dis, Valérian n'est pas l'héroïque fantasy. De la science-fiction et du fantastique, je crois que Valérian n'est pas du fantastique parce que, même s'il se passe des tas de choses fantastiques, guillemets, il y a quand même un développement et un raisonnement logique. Qui se passe, les gens n'agissent pas selon des impulsions, des ordres venus, etc. C'est quand même très, tout ça c'est très Christin, c'est technique, avec des choses dont il est incapable, et moi aussi, de résoudre, mais il y a une logique, et je pense donc, Mais je, encore une fois, moi, les étiquettes, je ne sais pas ce que c'est, parce que de toute façon, la science-fiction, je connais ce que j'essaye de faire. Le reste, je regarde des productions où je suis séduit graphiquement, et puis d'autres choses. Ça fait vraiment 40 ans que je n'ai quasiment pas lu un livre de science-fiction, parce que quand je sors de bien travailler dans ma journée sur mon truc, ben, je m'occupe d'autre chose, je vais voir autre chose, et surtout pas... c'est pas un rejet, hein, c'est simplement que je crois... J'ai une petite mécanique qui fonctionne pour moi et qui avance en réflexion. Ce qui se passe à côté, je passe à côté.
Alors, moi, j'ai une question par rapport un petit peu à ce qui s'est dit. On a tous lu, je dirais peut-être, les premiers space opéra, les rois des étoiles, etc. Est-ce que, puisque depuis quelques années, la science, les découvertes, etc., ont fait évoluer les choses très très vite, est-ce que ça a modifié quelque chose au niveau de l'écriture du space opéra?
Alors, je dirais que là, il y a la part du dessinateur et il y a la part du dessinateur. Je ne peux parler que en tant que dessinateur. Je pense d'abord ne pas avoir lu énormément de ces livres-là. J'en ai lu dans les années 50, quand j'avais moins de 20 ans. Qu'est-ce que j'ai lu? J'en sais plus rien. Christin, en tant que scénariste, a peut-être plus lu que moi. Je ne suis pas sûr que le roi des étoiles...
Oui, par exemple.
Ça s'appelle comment ça? Le roi des étoiles. Je ne suis pas sûr.
J'ai un peu l'un. Je dirais presque l'ancêtre de Star Wars. Hein.
Qui a écrit ça?
Edmond Hamilton.
Bon, écoutez, je suis désolé, mais je suis totalement incompétent
pour parler de
ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je crois que, en tant que créateur graphique, je demande à mon scénariste de me proposer un squelette d'histoire. Et ce squelette, là, il va le chercher où? Il va chercher de ses anciennes lectures, de ses réflexions sur l'actualité et même sur ses anticipations de l'actualité. Parce que Christin est quand même réputé pour avoir annoncé des catastrophes en 1986, alors qu'on était en 1967-68, et il y a eu Tchernobyl en 1986, et que, par exemple, tout ce qui arrive et qui peut changer le monde, il l'anticipe un peu, il l'inclut dans des histoires, et on se débrouille avec. Mais moi, je ne fais que donner corps à une esthétique que j'essaye d'être qui essaye d'être original et qui devient les bons jours quelque chose de bien et les mauvais jours, faut recommencer et faire quelque chose de mieux.
Alors, et Pierre, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que la science a un peu tout rejoint l'univers spatial, parce que l'homme est allé sur la Lune et encore c'est controversé. et la prochaine conquête c'est Mars. Prévu en 2050, et Mars c'est pas si loin que ça, donc dès qu'on sort du système solaire, on est totalement dans la magie, puisqu'on est obligé d'inventer des principes qui n'existent pas. Donc je pense que la science peut servir éventuellement à définir notre planète. On va avoir des histoires de gravité, d'éloignement par rapport à l'étoile, etc., de climat, peut-être la géologie va entrer en jeu, l'écologie va entrer en jeu, ce genre de science, mais sur le déplacement par exemple, on est encore sur un terrain totalement vierge, et donc la science n'a pas tout encore effleuré, enfin, on n'est pas question, alors les voyages dans le temps encore moins, le voyage à la vitesse supraluminique, pas du tout, d'après Einstein c'est impossible, bien que maintenant on commence à éventuellement dire que certaines particules vont plus vite que la vitesse de la lumière, donc on n'a pas encore. C'est pour ça que je pense qu'il y a une notion d'intemporalité dans le space opéra qui rejoint la notion d'intemporalité dans la fantasy. Comme me faisait justement remarquer hier un des participants au débat sur Star Wars commence, il était une fois dans une lointaine galaxie. Et donc on est dans le principe même de la fantasy. Il était une fois dans un royaume lointain, dans un fort fort lointain, chez Shrek. Je pense que les ressorts du space opéra sont des ressorts éternels, intemporels, et qui donc relèvent, à mon sens, mais ça c'est ce que je ressens, peut-être que c'est moins vrai pour un space opéra qu'une fondation qui est basée sur la probabilité, mais quand même, tout ce qui ressort du voyage, tout ça, ça reste de la fantaisie. Et à ça, je rajouterais même la flibuste. J'ai vu une série qui s'appelle Flyer Firefly, je crois, récemment, et qui est une série de pure space opera, c'est-à-dire c'est un type qui a un vaisseau qui va de planète en planète, etc. Et on est tout à fait dans les registres des romans corsaires du 18e, 19e siècle, c'est-à-dire c'est l'abordage, à l'abordage, on est dans la survie, le combat. Alors, le terrain s'est déplacé, ce n'est plus la Méditerranée, encore une fois, ce n'est plus l'océan, qui sont relativement définis, bien que les abysses restent encore très méconnus. Par bien des égards, ça s'apparente à un monde extraterrestre. On s'est déplacé sur le terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est l'espace où l'imaginaire peut s'ébattre en toute liberté, quasiment. Et encore une fois, vous avez parlé tout à l'heure de logique, et moi j'ai envie de parler de cohérence. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. On va faire voyager le lecteur sur des planètes qui n'existent pas, dans des systèmes qui n'existent pas. Et on va lui faire croire. Orson Scott Card disait un jour, on passe un pari avec le lecteur. On va vous raconter un merveilleux mensonge. Et nous, auteurs, on va tout faire pour que vous y croyez. Est-ce qu'on y réussit? Je ne sais pas. On va employer tous les ingrédients pour que vous croyiez à notre histoire. Et que vous, voilà. Et c'est là-dessus, je pense, que travaillent beaucoup les auteurs. Alors, je ne sais pas si M. Héron sera d'accord avec moi, mais c'est là-dessus que travaillent les auteurs, c'est-à-dire rendre cet univers improbable totalement cohérent. De la même façon que les auteurs de fantasy rendent leur univers totalement cohérent. Il y a aussi un grand travail, on dit que souvent la fantasy, ouais, c'est juste de la magie, etc. On fait n'importe quoi, c'est faux. Si un auteur commence à faire n'importe quoi parce que c'est magique, comme le voyage dans l'espace relève de la magie, à mon avis, pour l'instant, alors le lecteur va très facilement sortir de l'univers en disant « j'y crois pas ». Donc voilà, le pacte qu'on passe avec le lecteur, c'est ce qu'on vous raconte, ça n'existe pas, mais vous allez quand même y croire. Je ne sais pas comment ça marche, si on y réussit, mais voilà, c'est un petit peu le travail de l'auteur. Mais je ne pense pas que les données scientifiques soient si importantes dans l'espace opéra que dans l'anticipation, où l'anticipation, on est vraiment obligé de tenir compte de ce qui se passe pour projeter dans un futur. Et là, évidemment, tout l'aspect scientifique devient très très important, parce qu'on est obligé de se tenir au courant des avancées, de les projeter légèrement dans le futur, et de voir ce que ça peut devenir. Là, je pense que, du coup, la connaissance scientifique est très importante. Dans l'espèce opéra, par l'astrophysique, quelques grandes notions d'astrophysique, sur mon premier espèce opéra, Le Guerrier du Silence, mon éditeur, Pierre Michaud, j'avais trouvé un système vachement joli, j'étais content, enfin bon, ouais. Et il me met « Pierre, ceci n'est pas possible pour telle et telle raison. » Parce que, astronomiquement, donc il me donne plusieurs arguments qui me font dire « Oui, j'ai manqué de cohérence, et donc du coup, mon lecteur va sortir parce qu'il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc voilà, sur ces lois connues en astrophysique, j'essaie au maximum de les respecter. Pour le reste, c'est l'imaginaire.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu le rôle de... Bon, non, mais c'est aussi ce qu'on reproche à la science-fiction, souvent, ceux qui ne connaissent pas, ouais, c'est complètement farfelu, etc. La science-fiction pose, en gros, au départ, enfin, surtout dans ce cas-là, un postulat complètement inventé. Par exemple, on a des vaisseaux qui vont plus vite que la lumière, bon point, mais à partir de là, il faut que l'histoire soit cohérente de bout en bout. Bah, je veux dire, c'est d'ailleurs le rôle de n'importe quel roman, finalement, mais peut-être plus encore...
Mais ça devient plus en science-fiction. Voilà. Plus on va loin dans l'imaginaire, à mon avis, plus on a besoin d'étayer la construction de façon cohérente. Sinon, elle peut s'effondrer très très facilement.
Oui, alors on peut peut-être passer un peu la parole à P.J. Héro, là.
Je suis parfaitement d'accord avec le mot logique. On ne peut pas écrire un bouquin si l'histoire n'est pas logique. En SF, en science-fiction. En fantasy, c'est différent. En fantasy, il y a le rêve. Il y a le rêve, il y a l'extraordinaire. Bon, là, on n'en est pas maître, mais c'est lui qui est maître et il mène l'histoire comme il veut, du moins. Une situation est bloquée. Il apparaît un sage ou un fantôme, pas un fantôme, enfin, peu importe, il est prêt à mettre, et qui claque des mains et l'histoire n'est plus bloquée. En même temps, je trouve que c'est facile et ça m'irrite un peu. Je parle de l'auteur. Parce que être dans une situation bloquée, on a tous connu ça. Puis on aurait bien besoin d'un Merlin qui nous débloque. C'est quand même beaucoup plus facile.
Avec la science-fiction, c'est le roi Merlin, du coup. Avec la
science-fiction,
c'est
le roi Merlin. Je ne veux pas paraître prétentieux à l'égard des auteurs de fantasy, parce qu'ils font un boulot magnifique. Par ailleurs, je crois que là, chez eux, la part de talent est plus grande. Le talent plus grand. J'ai souvent, enfin, en vieillissant, on radote un peu, je radote très joyeusement, et je donne la recette de roman. Pour moi, un roman, c'est d'abord une bonne histoire. Ensuite, un personnage empathique. Le gars dont vous voudrez qu'il soit son frère, quoi. Ou sans lui. Troisièmement, des personnages secondaires forts. Pas un mec, un zombie qui passe dans l'histoire comme ça, qu'on ne connaît pas. Non, il faut que le personnage soit fort, qu'il ait sa façon de parler, d'exister, de marcher, n'importe quoi. Quatrièmement, il faut un décor que l'on reconnaisse. C'est-à-dire qu'il faut le dépeindre avec suffisamment de soin pour que le lecteur le voit. Enfin, moi, il le voit, il le figure. Et cinquièmement, il faut du talent. Bon, et bien, je pense qu'en fantaisie, le talent, c'est vraiment plus beau. Parce que il faut qu'il fasse passer des trucs, quand même. Bon, il y a un monde, enfin, il faut qu'il fasse passer des trucs. Pour le space opéra, et pour revenir à ce dont on parlait, il y a deux choses qui me reviennent en mémoire. Un bouquin que j'ai lu il y a bien des années, où le gars racontait qu'on avait avancé des vaisseaux qui allaient plus vite que la lumière. Il partait de la Lune, il se posait sur la Terre, et il voyait dans un télescope son départ. Il voyait un vaisseau quitter la Lune avec le télescope, qui lui utilisait la lumière. Il se voyait deux fois, quoi, dans une glace, ou bien, et puis il se voyait décoller de la Lune. J'ai trouvé ça prodigieux. Et puis l'autre chose, c'est que le talent a quand même si le talent n'arrive qu'en cinquième position à mes yeux, il est là pour faire vivre tout ça. On a une espèce de petit cocktail. On a une histoire, on a des personnages, on a tous les ingrédients. On remue ça, et selon qu'on a vraiment du talent, ou quand même moins, ben ça donne une histoire qui tient la route, qui tient debout. Mais on est avant tout des conteurs. C'est simplement ça qui est pour moi. La technique doit être logique, et à partir du moment où on pense aujourd'hui envoyer des hommes dans l'espace, sur d'autres planètes, les scientifiques sont quand même pas plus cons que les autres. S'ils pensent que c'est faisable, c'est qu'effectivement, des hommes pourront vivre là-bas. Partant du postulat que les hommes y vivront, il suffit de les faire vivre comme aujourd'hui. Avec des conditions particulières sur lesquelles on ne revient pas, on explique qu'ils ont une combinaison. Voilà. À chacun d'expliquer ce que. De voir dans sa tête à quoi correspond cette combinaison. On n'entre pas dans le détail pour les trucs techniques. Autant il faut entrer dans le détail, dans le conte, dans l'histoire qu'on compte, autant il ne faut pas entrer dans le détail, dans le côté technique, parce qu'on se plante. Il y aura toujours un mauvais con pour déclarer, c'est pas possible ça. Ben non, c'est pas vrai. Hein. Aujourd'hui, on conteste, comment il s'appelle, E égale MC2. On conteste Einstein. Bon, prends au sérieux les objections de gars qui vous écrivent pour dire que c'est pas possible. Non, faut pas ça. Faut pas se faire un complexe pour ça.
Alors, par rapport à ce que tu dis, moi, ça m'amène à une autre question. Est-ce que le space opéra a des sous-genres? Alors, bien sûr, je pense tout de suite aux planètes opéra. Est-ce que c'est quelque chose de comparable? Enfin, voilà. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a évidemment des films et des romans qui sont des space opéra. J'ai quand même l'impression que le planète opéra a une place beaucoup plus importante. Et là, on s'éloigne, par contre, évidemment, énormément de la fantasy.
Une question, qu'est-ce que c'est que le planète opéra? Je n'ai jamais entendu parler.
C'est la space opéra sur le planète.
Ah oui, mais ça existe depuis longtemps.
Bon, en gros, pour faire simple, un vaisseau spatial avec des occupants arrive sur un monde, et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on n'est plus dans l'espace, on est sur ce monde-là, ou alors, on décrit un monde qui n'est pas le nôtre, et par exemple, un monde d'azur de Jack Vance, où on a une planète entièrement recouverte par les eaux, et il y a quand même des gens qui vivent là, donc voilà, enfin, je simplifie. Hein. Alors, Pierre,
Il y a un autre sous-genre qu'on pourrait rajouter, ce qui est le vaisseau génération. qui sont des histoires qui se passent uniquement à l'intérieur d'un vaisseau, puisque évidemment l'espace veut dire des distances effroyables, donc si on imagine qu'on va à une vitesse relativement modeste, on va mettre des siècles, voire des millénaires, aller d'un point à l'autre de l'espace, et donc il y a des histoires qui sont entièrement confinées à l'intérieur des vaisseaux, qui je pensais aussi ressort du genre finalement space opéra, genre spatial en quelque sorte, parce que je pense que Planète Opéra, c'est Dune est quasiment un Planète Opéra, et qui quand même passe pour un space opéra, parce qu'il y a des vaisseaux, il y a les... l'action est concentrée sur la planète Dune, mais on sait qu'il y a des pilotes qui se nourrissent de l'épice, qui permet la préscience, qui permet de voyager à travers l'espace. Donc on est bien dans un space opéra, sauf qu'il est vu sur une planète qui s'appelle Dune. Donc après, ça dépend comment l'auteur traite son planète opéra. Carl en a fait un avec une planète de Métrahison, par exemple, qui est un très, très bon planète opéra, que moi j'associe complètement alors, au space opéra. Enfin, c'est tout ce qui est domaine spatial. Hein. Space opéra, c'était pour parodier le soap opéra. Faut élargir, je pense, au propos et dire que bon, ce qui se passe sur une planète, une exoplanète qui peut être autre que la Terre, c'est du domaine spatial, donc on rentre dans le grand cadre de l'aventure spatiale.
Oui, je me tourne vers Jean-Claude. Moi aussi, j'ai été marqué par un certain nombre de bandes dessinées qui entrent dans cette catégorie. Bon, je pense à Guerre à la Terre, que tu connais sûrement, de Licois, ou Barbarella, par exemple, de Forest, qui est beaucoup plus... Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi, c'est du space opéra? Est-ce que ce sont des œuvres qui t'ont peut-être un peu inspiré ou dont tu as essayé de te démarquer?
Oui, c'est que moi, ça a été toujours des réactions graphiques. C'est-à-dire que, par exemple, Guerre à la Terre, j'ai dit quoi, je pense que j'ai vu des choses. C'était dessiné par quoi, le Cureux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui,
tout à fait. Mais je pense que j'ai vu ça, mais j'ai jamais lu parce que un, il n'y avait pas d'album, me semble-t-il, donc je n'ai pas eu tous les numéros du journal. Et deux, graphiquement, ça m'accrochait pas. Donc, si ça m'accrochait pas, c'est pas le genre que je rejetais. Mais graphiquement, par exemple, Beau Ivet, très grand dessinateur de science-fiction pour les pionniers de l'espérance, je ne dis pas de bêtises, oui. J'ai connu l'homme, Beau Ivet, dans ces dernières années, largement, et on a beaucoup sympathisé, mais je dois dire que son dessin, dans le genre un peu croquis, ne m'a jamais accroché, alors que c'était un remarquable dessinateur et que j'apprécie le dessin en lui-même, mais ça ne faisait pas vibrer. Et par contre, Forest pour Barbarella, dont j'ai eu dans les années 60, au début, avant que l'album ne sorte, puisqu'il a été interdit pour obscénité, pornographie, etc.
Ça a commencé à paraître, on dirait. Dans des magazines, par exemple.
Absolument, d'un cochon extraordinaire, d'ailleurs, quand on voit ça maintenant. Bon, et que Eh bien, graphiquement, le dessin de Forest, d'une énorme fluidité, d'une grande souplesse, m'a beaucoup attiré. Et incontestablement, si Laureline a une référence graphique sur quelqu'un que Barbarella, je le reconnais, mais à genoux, et j'ai là aussi une grande sympathie pour Forest, qui me l'a bien rendu d'ailleurs, parce que après on se connaissait bien, et il m'a fait un dessin qu'il m'a donné et qui est absolument, qui résume tous nos rapports. C'est Barbarella et Laureline, les deux personnages étant deux jolies nanas minces, qui jouent à saute-mouton. Et la première image, Barbarella est sur le dos et Laureline saute par-dessus, puis Laureline prend Barbarella sur son dos, etc. Et il m'a dit, ah mais toi, ça, quand tu as démarré tes Valérian, ça m'a donné envie de retravailler sur Barbarella.
En fait, l'image, il te passe le relais.
Voilà, exactement. Enfin, il y a cette espèce d'échange comme ça, et ça m'a beaucoup touché. Donc, c'est vrai que les thèmes et guerre à la Terre, je connais pas. De même que les pionniers des séances, j'ai vu les trucs où ils dessinent dans le jardin avec les grosses fourmis, etc. Et pour moi, ce n'était pas de la science-fiction. Et après, le reste, ces gros suppositoires dans le ciel, etc., ces fusées, ça ne me branchait pas des tonnes. Et ce n'est que... alors, les Américains, je veux dire, Alex Raymond et d'autres trucs comme ça, je ne connaissais pas dans ma jeunesse, dans mes années d'incubation, les années 50, ça, je ne connaissais absolument pas vu.
Flash Gordon et compagnie.
Je ne connais pas.
D'accord, oui.
Et la bande, je veux dire qu'en plus, bizarrement, la bande dessinée américaine n'a pas été du tout un attrait pour moi. J'aime pas les histoires de super-héros. J'aime toujours pas de lire les histoires de super-héros. Et par contre, des dessinateurs inventifs. Et peut-être que je pense à Robida, je pense à des grands illustrateurs beaucoup plus. Comment dire, pour moi, créatif que tous ces gros mecs balèzes qui se tapent sur la gueule et qui je peux pas lire ça, je peux pas regarder. Mais Robida, dessinateur quand même de science-fiction des années 1900 jusqu'en 1920, quelle leçon d'inventivité. Il a inventé quand même la télévision, la projection sur le mur de l'opéra, etc., le téléphone avec des viséophones, je crois qu'il appelle ça. Et ça m'excite énormément. Et je dois dire que Valérian s'en est inspiré beaucoup plus dans, par exemple, les terres truquées, où il y a des sauts en arrière, dans des recréations de Paris 1900, etc. Et là, je renvoie des petits coups de chapeau à tous ces grands dessinateurs.
Robida, je dirais simplement une chose, c'est que il serait bien d'ailleurs qu'on le redécouvre, notamment d'ailleurs quand sa parodie qu'il fait du Tour du Monde à 80 jours, et qui est absolument délirante et délicieuse, avec des dessins évidemment qui restent très, très typiques.
Très beau,
oui. Ah oui, absolument.
Et très personnel, parce que justement, il y a toute une espèce de science-fiction un peu codée. Alors justement, je crois que c'est peut-être pour ça qu'au début, je ne pouvais pas attaquer la vraie science-fiction, parce que je ne voulais pas recopier ce que je voyais dans des dessins de villes qui étaient, même à la Jack Kirby, où il y a des... c'est vraiment des suppositoires, des ronds, des carrés, etc. C'est pas très créatif. Alors que quand on voit maintenant des dessinateurs, des plus jeunes, je pense notamment à François Scoïten qui était là tout à l'heure, quand même faire des cités avec une des architectures, d'un raffinement, là, le lecteur peut s'accrocher et voilà. Et alors, bien sûr, dans mes histoires de Valérian, lorsque Pierre Christin me propose le point central avec un agglomérat de tout plein de civilisations du cosmos qui viennent cohabiter ensemble dans une espèce de ONU de l'espace, là, je me régale graphiquement parce que chaque cellule est d'une essence complètement différente des autres. Donc, il faut inventer, il faut aller... Et je pille tous mes livres d'architecture, et c'est pas assez, donc je suis obligé d'en créer encore, etc. Et je pense que, moi, ce qui m'intéresse dans la science-fiction, je veux dire, c'est la réflexion graphique. Hein, c'est vraiment pas... les grands thèmes, je me suis quand même accoquiné avec un des très meilleurs scénaristes de bande dessinée contemporain, pour pas dire le meilleur, mais je pense qu'il a été quelqu'un qui a apporté absolument un souffle nouveau dans beaucoup de styles de bande dessinée différents. Et c'est sûr qu'on a eu la chance de démarrer quelque chose à une époque où, en plus, la science-fiction, qui était dans l'air du temps, puisqu'on étions avant la conquête de la Lune, on était au moment de la nouvelle frontière des États-Unis, Kennedy, la bataille, la rivalité avec les Soviétiques, les Spoutnik et tout comme ça. Et tout ça, c'était très excitant. Et de dire, on va commencer à effleurer, parce qu'on ne s'est pas lancé dans le dire, on va faire 20 épisodes de 50 pages. Bien sûr que non, on a fait un premier pas, une première marche d'escalier, puis on a continué. Mais au fond, c'est là où la surenchère aussi, elle est scénaristiquement de ne pas raconter les mêmes histoires à chaque fois, et graphiquement, d'essayer de montrer là encore des choses différentes par rapport à ce que l'imaginaire classique de la science-fiction existait. Il y a un truc, on parlait pas, juste un truc parce que ça m'a rappelé, tout à l'heure on parlait des civilisations, des fusées de civilisations, etc. Et j'ai retrouvé récemment un vieux dessin que j'ai fait pour un numéro de pilote, un dessin raté, d'ailleurs très moche, bâclé, mal foutu, mais avec une putain d'idée qu'il avait fait. C'était juste une page. Et ça représentait quatre cases longues. C'était une fusée dans l'espace. Et deuxième fois, on s'approche de la fusée, où on voit des hublots avec de la lumière dedans. Et la dernière image, on voit à travers le hublot, et ce sont des hommes préhistoriques en train de graver dans les parois du rocher, à l'intérieur de la fusée, des représentations de cerfs, de taureaux, de trucs comme ça. Et vraiment, mais j'étais pas en forme graphiquement ce jour-là, j'ai salopé le dessin, c'est nul. Mais l'idée était chouette, et je pense qu'il y a toute une histoire à raconter sur l'envoi de ces hommes préhistoriques dans une autre planète. D'où viennent-ils ?
Oui, on peut relier ça au thème du long voyage, dans lequel les occupants petit à petit dégénèrent et ils ne savent absolument plus qu'ils sont dans un vaisseau spatial, etc. Ils vivent là-dedans comme nous on vit. Après tout, la Terre est un vaisseau spatial.
Bien sûr.
Oui, moi j'ai une question que je poserai à P.J. Hérault. Je veux dire, je le dirai moins pour Pierre Bordage parce qu'il est d'une génération un petit peu plus récente, mais dans tes inspirations, ce qui a pu t'amener à écrire du space opéra, est-ce que c'est plus le space opéra à l'américaine qui t'a influencé ou, puisque la France a aussi écrit, on a eu des auteurs français qui ont écrit des space opéras en même temps, voire même avant les Américains.
J'avais vaguement commencé tout à l'heure, alors je vais terminer, mais palestinien. Le fleuve m'a écrit fin septembre en me disant « Vous avez été dépassé par la réalité, on ne prend pas votre manuscrit. » Ça m'a dégoûté, parce que j'avais quand même bossé sur le truc. Et à l'époque, on recevait tous les mois toute la production du fleuve noir. Tous les bouquins, policiers, espionnage, science-fiction, tout. Et je lisais des bouquins de science-fiction, puisque je les avais gratos. Et si je n'aimais pas tous les auteurs, il y a un mec que j'adorais, c'était Randa. Parce que je trouvais que ce mec écrivait bien. Ça changeait beaucoup par rapport aux autres. Je trouvais que ça faisait un peu vieux leur littérature. Enfin, c'était mon jugement d'époque. Mais Randa, je trouvais vraiment du talent, ce mec. Et je me suis dit, au fond, pourquoi pas changer de domaine? Parce que l'espionnage, un bouquin d'espionnage, il faut une part de technique, une part d'aventure, une part de bagarre, un peu de sexe, on se coule le tout et ça fait un bouquin. C'est lassant. Donc, l'ASF, en revanche, c'était la liberté totale. On peut tout faire en SF, on peut faire un bouquin de sociologie, on peut faire un bouquin de psychologie, on peut faire un bouquin de pédagogie, on peut faire un bouquin social, on peut faire un bouquin d'aventure, on peut faire mais tout, même une histoire policière. On peut tout faire, c'est la liberté absolue. C'est bien que ça a été ma découverte. Puis là-dessus, à la télé, on a rediffusé La planète des singes. Et il y a une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Charlton Heston est en train de cavaler à cheval quand il s'évade. Il est sur une plage et il voit au loin le flambeau de la statue de la liberté qui émerge. Il dit « Merde, les cons, ils l'ont fait ». Tout est parti de là. Tout le bouquin, enfin, la série que j'ai fait ensuite, est partie de cette scène-là. J'ai imaginé un mec qui se retrouve sur une planète tout seul, et puis bon, à partir de là, les choses se sont enchaînées. Mais c'est ça, enfin, mon approche de la SF, c'était ça, c'était le ras-le-bol de l'espionnage, et puis ce flou de passer ce jour-là. Quoi. Et après, bon, ben, c'est un voyage. On passe d'une histoire à l'autre, mais il y a une chose qu'il faut toujours garder en tête, toujours rester très modeste. Il faut être très très modeste. D'abord parce que la part de hasard dans ce qu'on écrit est vraiment très grande. On n'est pas bon tous les jours, comme le dit mon petit camarade, et il faut être très modeste et refaire ce qu'on a fait qui n'est pas bon, quand ça ne nous plaît pas. Là, l'ordinateur a une part fabuleuse dans l'histoire de la littérature moderne, enfin depuis 50, 60 ans. J'ai connu les bouquins où on contemplait la machine à écrire. Ah, il fallait effacer, là. Mais quand vous avez un paragraphe entier à effacer, purée, il fallait recommencer. Mais recommencer, c'était chiant. Parce que les paragraphes, ils étaient toujours en bas de la page. Mais qu'est-ce que j'en ai recommencé des pages? C'était odieux.
Alors que maintenant, on marcie, on appuie sur un bouton et on commence le paragraphe. Vous rigolez, mais ça a changé des générations, le travail de générations d'auteurs. Vraiment, ça a créé un bouleversement, une liberté là aussi. Alors, amener ça, j'ai ça, la liberté qu'on éprouve quand on écrit des SF, ça fait qu'on reste, on s'y sent bien. Quoi.
Alors, tu as dit une chose qui m'a paru intéressante, et peut-être que Pierre pourra rebondir. Tu as dit que la science-fiction, il y avait, par exemple, le roman psychologique, le roman sociologique. En fait, si on regarde bien, on a, là on s'éloigne un peu du space opéra pour parler peut-être plus de la science-fiction en général, mais dans les littératures, on peut mettre des compartiments. Là, c'est par exemple le roman d'amour, là c'est, je sais pas, le polar, etc. Or, on retrouve tous ces thèmes-là dans la science-fiction. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles souvent les gens ont du mal à s'y retrouver, parce que, je prends un exemple, celui qui s'intéresse à tel type de littérature, s'il veut aborder la science-fiction et s'il ne retrouve pas, parce qu'évidemment, la science-fiction, c'est quand même maintenant quelque chose d'énorme, s'il ne retrouve pas ses sujets de prédilection, il va la rejeter. Donc c'est quand même tout un, comment dirais-je, tout un espèce de labyrinthe dans lequel on essaie de retrouver ses petits.
Mais il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. La littérature, ça se compose de la littérature générale, Victor Hugo, Modigliano, Georges Aurès, et puis la littérature populaire. La littérature populaire, c'est ce que nous faisons, c'est le polar, l'espionnage, l'ASF, le roman d'amour. Ça, c'est la littérature populaire. Et pour moi, elle est peut-être moins belle, mais infiniment plus précieuse pour l'homme que la littérature générale. Parce que dans 100 ans, un gars qui voudra faire une étude sociologique sur notre époque, sur aujourd'hui, il aura à sa disposition tous les bouquins de littérature populaire qui ont été écrits. C'est là où on voit la société américaine se dissoudre après la guerre, où on voit les petits cadres, les bourgeois se rencontrer le week-end, boire et coucher, où on voit l'arrivée de la drogue peu à peu au fil des années avec le point culminant, la guerre de la Chine, enfin pas la Chine,
Vietnam.
C'est un vivier fabuleux pour l'observateur scientifique ou pas. Donc il faut simplement se border à constater qu'il existe la littérature générale et la littérature populaire. Après, que la littérature populaire soit composée, bon, par exemple en SF de space opera et d'autres composites, c'est pas grave, peu importe. En fait, on est bien dans un bouquin, on l'aime ou on l'aime pas. Qu'il s'agisse d'un bouquin de space opera ou un bouquin d'amour ou de psychologie, peu importe, ça n'a aucune importance. On y est bien, on reste. Il faut être modeste à ce moment-là et se dire, bon, je m'en fous des étiquettes, je suis bien.
Je vais laisser la conclusion puisque il faut conclure, mais Pierre peut peut-être prendre le relais.
Alors, vous avez dit tout à l'heure tout à fait justement que la plupart des gens de littérature populaire, c'est des conteurs, et dans les conteurs, il y a une volonté d'effacement de l'auteur, quelque part. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui devient importante et non plus le style. J'ai l'impression que les auteurs de littérature générale sont des gens qui agitent un peu la surface de l'eau. On voit les vagues et on dit c'est quelle belle vague. Et pour les auteurs de littérature populaire, ce qui est important à voir, c'est peut-être ce qui serait précieux pour les sociologues des gens futurs, c'est l'intérieur des choses. C'est-à-dire que la surface est transparente. Enfin, j'ai l'impression qu'on travaille à moi, c'est d'essayer de disparaître en tant qu'auteur pour que l'histoire surgisse. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire, c'est pas le style. Le style est au service de l'histoire. C'est une grande différence avec la littérature générale. Une deuxième chose, la science-fiction a une richesse inouïe. Parce qu'elle regroupe plein de choses que ne regroupent pas tous les autres genres. En gros, pour moi, d'abord, elle, par l'effet de merveilleux, c'est du merveilleux, c'est un merveilleux voyage, au sens de Jules Verne, un nouveau voyage extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va convoquer le lecteur pour quelque chose de différent. Donc ça crée un effet, ce décalage crée un effet qui est l'effet vertige. Et moi, je recherche énormément l'effet vertige en tant que lecteur et en tant qu'auteur. C'est-à-dire, on va me décoller de mon réel et on va m'envoyer dans une histoire incroyable, merveilleuse. Ce que je trouvais déjà dans les mythologies, en tant qu'enfant, quand je lisais la mythologie, j'étais déjà décollé de mon réel et projeté dans un ailleurs merveilleux. Donc ça reprend cette histoire du merveilleux. C'est le premier point. Deuxième point, plus on projette dans l'espace ou dans le futur, et plus ce qui ressort, c'est l'homme. Et ce sont les problèmes contemporains. Donc, paradoxalement, cette littérature-là, qui est une littérature de projection, devient une littérature du présent. Toute littérature générale est une littérature du passé. Toute littérature générale est une littérature du passé. Puisque vous racontez des souvenirs, vous racontez une histoire qui s'est déjà passée. Donc vous êtes déjà dans un registre passé, de souvenirs, souvent. D'où aussi le succès de l'autofiction, on raconte des souvenirs, ou modèle proustien dans la littérature, où c'est comment je raconte ma vie, etc. Pour parler du présent, il faut une projection dans le futur. C'est quasiment obligatoire, parce que sinon, vous êtes déjà dépassé par votre propre production. Donc, les thèmes émergents dans le présent vont encore émerger plus fort quand on les projette dans le futur. Là, il y a deux exemples fabuleux qui sont 1984 et Le meilleur des mondes, où les thèmes qui sont pressentis par les auteurs de l'époque, totalitarisme pour l'un, totalitarisme biotechnologique pour l'autre, sont maintenant dans notre présent. Ils les ont apportés il y a plus de 50 ans pour les présenter maintenant dans le présent avec une acuité incroyable. Ça, c'est le deuxième point que je pense rend cette littérature très précieuse. Le troisième point, à mon avis, c'est l'interrogation philosophique. Et là, ça rejoint directement les mythologies, je pense. Je pense que c'est le grand courant qui traverse ces récits populaires dont vous parliez, qui ont commencé par les mythologies, qui ont traversé le temps, et qui, dans les récits mythologiques, vous avez déjà des interrogations fondamentales qui sont reprises et amplifiées par la science-fiction. Par exemple, l'immortalité. Gilgamesh, roi d'Uruk, c'est une quête de l'immortalité, c'est le premier mythe connu, mythe sumérien, et beaucoup d'histoires de science-fiction abordent le terme de l'immortalité, etc., etc. Donc, ces interrogations philosophiques qui ont toujours été le lot de l'homme, finalement, se retrouvent développées dans les univers de science-fiction. Et c'est rare que vous ayez d'autres types de littérature qui regroupent toutes ces qualités-là. C'est pour ça qu'elle est très précieuse. C'est pour ça aussi que les auteurs, je pense, ont une grande responsabilité, qui est de mettre cette littérature-là à la portée des lecteurs. C'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans un ésotérisme. Il y a certains ouvrages de science-fiction dont le lecteur commun ne pourra pas avoir les clés. Moi, je pense que le rôle des auteurs, c'est de donner des clés, de mettre des passerelles. Et je trouve que, par exemple, Valérian, c'est fabuleux pour ça. Ce sont des passerelles formidables pour l'imaginaire, parce que tout le monde peut s'en emparer. C'est peut-être plus facile avec la BD ou avec le cinéma, parce que les images sont imposées, on n'a pas à se fabriquer des images. Mais je pense que c'est une des responsabilités des auteurs de mettre cette littérature-là à la portée du lecteur.
Alors, peut-être pour conclure, est-ce que, puisqu'il faut quand même revenir au space opéra, est-ce que le space opéra a un avenir ?
Ah oui, c'est même le seul.
Oui.
Ah,
ouais. Mais
parce que moi, je parle du principe que l'homme, sous Scipion l'Africain ou sous César, n'était pas différent de l'homme aujourd'hui. Il était mené par l'amour, par l'ambition, par l'orgueil, par la générosité, par la bonté. Enfin, il a les mêmes sentiments l'habitaient qu'aujourd'hui. Et fort de ce constat, je déclare que c'est un constat, fort de ce constat, je me dis qu'il n'y a aucune raison que dans 3000 ans, l'homme soit différent. Il vivra dans un monde différent. Mais fondamentalement, bah, il aimera, il détestera, il aura envie de devenir quelqu'un d'autre, il aura envie de gagner beaucoup de pognon. À mon avis, l'homme ne change pas. Si bien que le secret de la SF, c'est de faire évoluer le monde matériel sans s'y attarder trop. Simplement pour montrer des hommes du futur qui sont nos frères, ils sont comme nous, et les faire s'agiter dans un contexte différent. Avoir des problèmes de conscience, avoir des problèmes de vie courante, c'est là, ce sont les hommes qui sont le secret des bouquins de SF. Parce que si on s'occupe trop du côté technique, on va être dépassé, ou on est déjà dépassé, on ne sait pas quand on écrit, ou on va être dépassé dans 10 ans. Donc entrer dans ce rôle-là, c'est pas... J'ai, à plusieurs reprises, j'ai écrit... Des histoires où un pilote, c'est souvent des pilotes, mais un personnage, j'aime bien, a expérimenté une nouvelle façon de piloter, en pilotant par la pensée. Bon, il y a un casque sur le crâne, qui des sondes sur son cerveau, et il contrôle par la pensée. J'ai décrit ces scènes-là, mais je ne les ai pas décrites techniquement. J'ai écrit ce qui se passait dans son crâne.
le gars, il avait l'impression de tomber dans un gouffre, il était vraiment mal, il était malade. Et puis peu à peu, il revient à la surface de sa pensée, et il arrive à contrôler le vaisseau. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est le passage de l'être humain, de l'esclave, de rien du tout, d'un rouage mal foutu, au pilote qui se révèle à la fin. C'est ça qui m'intéresse. C'est ma façon de voir la SF, c'est même certainement pas la façon de tout le monde, mais c'est cette SF-là que j'aime. Parce que ce sont les hommes, jamais perdu. Nos lecteurs sont des hommes et on va parler d'hommes.
Oui. Entièrement d'accord avec ça.
Oui, oui.
Merci.
Cela dit, juste pour conclure, à propos de la... D'abord, ça me fait penser à un film comme Firefox, où effectivement, ouais. Il pilote son avion par la pensée. Mais j'ai écouté récemment qu'on commençait à décrypter les pensées des gens et que sur la connaissance du cerveau et de la pensée humaine, petit à petit, la science commençait à permettre d'entrer dans ce qui se passe. Et ça veut dire que ce qu'ont imaginé les auteurs de science-fiction à une époque par rapport à ça, on peut supposer que dans l'avenir, on va y parvenir.
Oui, il défriche le défrichement. Non, il défriche le déchiffrement. Putain, ça raconte mon histoire là.
Voilà, il y en a un qui veut donner le mot de la fin, peut-être ? Non ? Bon, ben, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir patienté jusqu'au bout
de
ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et puis, disons, bonne route dans ce festival qui est absolument passionnant dans un cadre, superbe. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée.
J'aurais envie de dire, je ne sais pas comment vous avez pu rester là pendant tout ce temps. Ce qu'on a dit là, c'est un peu banal maintenant. Bah, moi, pardon.
Bien. Bon, bah, écoutez, désolé d'avoir été. Ouais, on faisait pas si grave.